RFI, 5h30 à Dakar, 7h30 à Paris et Khartoum.
RFI Matin.
Et tout de suite le journal. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour Andréane. Bonjour à toutes et à tous. À la une, la guerre au Moyen-Orient, vue depuis le campus de l'université Cheikh Diop de Dakar au Sénégal, alors qu'une trêve se profile ce matin entre Israël et l'Iran sous l'égide des États-Unis. On y revient bien sûr largement ce matin sur RFI, prochain journal international dans une demi-heure. Et puis notre invité dans trois quarts d'heure avec Arnaud Pontus, l'ambassadeur iranien en France. Dans cette édition également, la grève deux semaines des avocats en Guinée. Grève pour protester contre la violente interpellation samedi de l'un des leurs, Maître Mohamed Traoré. On fait un focus aussi dans ce journal sur l'adaptation des villes au changement du climat, aux inondations, notamment Kinshasa est touchée. Nous avons interrogé les maires de Cotonou au Bénin ou encore de Douala au Cameroun ou encore le gouverneur de la province de Nairobi, dossier dans une dizaine de minutes. On va parler aussi de la réforme de l'ONU, les grosses économies que l'ONU doit faire avec des licenciements en perspective. Nous avons joint un syndicaliste onusien. La trêve est entrée en vigueur et elle doit être respectée. C'est ce que dit à l'instant Donald Trump. Cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Un cessez-le-feu qui avait été annoncé il y a déjà quelques heures par le président américain dans la soirée. On avait des incertitudes jusque-là, donc à l'heure où l'on parle, il dit, Donald Trump, que ce cessez-le-feu est entré en vigueur ces dernières heures. Avant donc l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, la guerre par les airs a continué puisque de puissantes explosions ont été entendues il y a quelques heures maintenant à Téhéran. L'armée israélienne, de son côté, a affirmé que des missiles iraniens ont été tirés en direction du pays. Les services de secours parlent de 4 morts. Pour l'instant, aucun des deux pays, il faut le dire, n'a confirmé ce cessez-le-feu. Mais d'après le chef de la diplomatie iranienne, Téhéran n'a pas l'intention, je cite, de poursuivre ses frappes si Israël arrête son agression. Nous sommes bien sûr en direct, on suit la situation toujours sur l'application RFI. Sur le plan des réactions internationales, l'Afrique demeure toujours en grande partie silencieuse. Mais les populations sont inquiètes, comme en témoigne ce reportage de notre correspondante Léa Lisa Vesterov sur le campus de l'université Cheikh Diop à Dakar.
Dans le hall de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UQAD, les étudiants papotent avant de rejoindre leurs cours. Les frappes américaines en Iran sont dans tous les esprits.
On est tous choqués.
Cher Tidiane Thiam, en troisième année de droit public.
On est tous choqués le fait qu'il a bombardé, parce que les États-Unis est une grande puissance qu'il pouvait faire à l'amiable quand même.
Parmi les étudiants, la condamnation est unanime. Habibou a 28 ans.
Vraiment, ce sont des frappes qui violent les règles de droit international.
Alumba, lui aussi, est étudiant en droit public.
L'Iran a le plein droit de riposter par rapport aux attaques américaines. Il peut évoquer la légitime défense. On risque quand même une troisième guerre mondiale. Ça peut faire flipper à tout le monde. On ne sait jamais.
Un peu plus loin, dans les jardins de la faculté, assise sur un muret, Anna Silva révise ses cours de sciences politiques. Ce qu'elle craint, elle...
Ce sont les conséquences. Parce qu'après ça, là, d'autres pays peuvent s'en mêler. Les pays en voie de développement se retrouvent un peu coincés sur ce genre d'histoire-là. Parce que, faut le dire, nous n'avons pas la capacité ou bien le pouvoir de participer à ces guerres. Mais frère, les répercussions, ce sont nous qui vont plus ressentir ça. Sur le côté économique, social aussi. C'est ce qui me fait le plus peur actuellement.
Lundi dernier, les autorités sénégalaises avaient condamné les violations du droit international et appelé à la désescalade. Rien depuis. Léa Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Avant d'aller en Guinée dans ce journal, un mot si vous nous écoutez au Bénin, retenez cette date. Le 12 octobre, nous devrions alors connaître le nom du candidat ou de la candidate du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de l'an prochain, annonce hier du porte-parole du gouvernement à Cotonou. À Conakry, les avocats se lancent donc dans une grève de deux semaines, boycott des audiences et retrait des avocats des institutions de la transition pour celles et ceux qui en seraient membres en Guinée, et cela en protestation à l'interpellation de l'un des leurs, Maître Mohamed Traoré. C'était samedi, il a été relâché, mais entre-temps violenté, selon ses proches. L'avocat a été membre du Parlement de transition, mais il avait démissionné en début d'année et ne se privait pas de critiquer les autorités guinéennes. Sa brève mais violente arrestation fait donc réagir vivement ses confrères, à l'image de Maître Gabriel Kamano, bâtonnier par intérim du barreau de Conakry.
Le barreau de Guinée a dénoncé et condamné fermement cette attaque injustifiée contre l'intégrité de notre confrère, contre notre corporation et contre l'État de droit. Il a note pris des résolutions suivantes. Le boycott de toutes les audiences sur toute l'étendue du territoire national pendant une période de deux semaines à compter du mardi 24 juin 2025. le retrait immédiat de tous ses membres désignés dans les institutions de la transition, le dépôt d'une plainte au parquet près le tribunal de première instance de Dixine contre les auteurs, les commanditaires et les exécutants de son enlèvement, le dépôt d'un mémorandum revendicatif au président de la transition. Si au terme des 2 semaines rien n'est fait, le barreau de Guinée se réserve le droit de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour évaluer les actions qui ont été menées et enfin pour décider des nouvelles stratégies à suivre.
Le bâtonnier par intérim du barreau de Conakry interrogé par Mokhtar Ba. C'est un dossier épineux qui empoisonne les relations bilatérales entre la Guinée et la Sierra Leone. Celui de la localité disputée de Yenga. Et le président sierra-léonais compte bien tirer avantage de sa nouvelle fonction de président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Julius Maada Bio a été choisi dimanche par ses pairs pour les 12 prochains mois. Le temps peut-être d'avancer sur un dossier que Freetown considère comme une violation flagrante de sa souveraineté par Conakry. Violation car l'armée guinéenne occupe Yenga. Dernièrement, la tension est même remontée dans le village. Et côté Timothy Kaba, il est le chef de la diplomatie sierra-léonaise.
La Sierra Leone et la Guinée partagent des relations fraternelles de longue date. Mais la situation à Yenga reste une tâche persistante dans cette relation, un contentieux qui dure depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'intensité de l'annexion et la montée des tensions sur le terrain nous obligent à aller au-delà des discussions bilatérales. Nous devons entrer dans un cadre multilatéral avec des médiateurs extérieurs pour faire avancer ce dossier. Et justement, la présidence de la CEDEAO donne à son excellence, le président Maada Bio, un levier stratégique, celui d'utiliser les outils et les protocoles de l'organisation pour intensifier les négociations autour de Yenga. La Sierra Leone demande le retrait inconditionnel des installations militaires guinéennes, la démobilisation et le retour des forces guinéennes dans leur territoire. Car pour nous, cette présence constitue une violation flagrante de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté nationale. Cette présidence offre une occasion unique de relancer une médiation sérieuse en mobilisant la CEDEAO pour amener la Guinée à la table des négociations.
Dossier suivi par Christina Okello. Sur l'application RFI, tiens, on vous explique pourquoi ce matin l'Ouganda tente de consolider en ce moment sa position stratégique avec la RDC. On vous raconte aussi les prochaines étapes dans l'organisation d'un dialogue national auquel semble se rallier la présidence congolaise, dialogue proposé par les catholiques et les protestants. Une commission doit être mise en place, un calendrier annoncé rapidement. Kinshasa, tout comme sa jumelle Brazzaville, victime récemment de pluies diluviennes et meurtrières en pleine saison sèche. Pour l'instant, pas de lien formel effectué scientifiquement avec les changements des climats de notre planète, mais on sait que le réchauffement va conduire à plus d'humidité dans l'air, donc plus de pluie, et les épisodes violents devraient se multiplier. Sujet, en tout cas, dont on parlera cette année à Belém, c'est au nord du Brésil, la COP climat va s'y tenir en octobre, et les villes, de manière générale, s'y préparent, sur le continent africain notamment. Des maires ou des gouverneurs de provinces capitales sont en ce moment à Paris, puisque bientôt 70% de la population mondiale vivra en ville. 2050, c'est déjà demain. Et pour s'adapter, il faut des moyens, Amélie Tulé.
Inondations, pluies diluviennes ou pics de chaleur, au Bénin comme dans de nombreux autres pays, les grandes villes en pleine expansion et leurs habitants les plus modestes souffrent des conséquences concrètes du changement climatique. Le maire de Cotonou, Luc Setondji Atroukpo, est aussi le président de l'Association nationale des communes du Bénin.
Les métropoles sont frappées de plein fouet. Nous avons besoin, par exemple, de verdir nos villes. Il faut que nos villes soient plus vertes. Et pour tout cela, on a besoin de ressources. Il faut que les partenaires comprennent que le financement tiré des villes est une solution pour que nous puissions apporter notre pied à l'édifice en ce qui concerne le changement climatique. Et ça, ça manque. Ouais, le fonds vert a été mis en place pendant longtemps. Les villes n'avaient pas du tout accès au fonds vert. Mais il n'y a pas de solution sans moyens.
Des financements et aussi la latitude pour agir. Pour Roger Mbassadine, maire de Douala, capitale économique du Cameroun, les maires doivent être plus consultés.
Il y a des questions de gouvernance urbaine. Le foncier relève uniquement de l'État. Et là, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ont un titre foncier sur une parcelle de terrain que la ville, dans sa classification, a jugé inconstructible. Comment faites-vous dans ce cas-là? Lorsqu'on veut donner un titre foncier, que les maires soient interrogés. Parce que celui qui gère le plan d'occupation du sol, c'est le maire.
Malgré des avancées et une prise de conscience générale, les maires expriment une frustration face aux promesses non tenues 10 ans après la COP21 de Paris en 2015.
Et le gouverneur du comté de Nairobi, au Kenya, est également à Paris. Nairobi qui a connu ces dernières années des catastrophes climatiques d'une ampleur exceptionnelle. Sakaja Arthur Johnson confirme que c'est bien par les finances que le bât blesse.
Il est clair que le plus grand défi pour le continent africain, c'est le financement de l'action climatique. L'Afrique, c'est la prochaine étape de la lutte contre le changement climatique. Nous disposons du plus grand potentiel solaire. 60% du potentiel solaire mondial se trouve en Afrique. Nous possédons les plus grands puits de carbone. Prenons l'exemple de la forêt du Congo. Pourtant, si l'on considère les agences de notation, nous sommes considérés comme des pays à risque, malgré la nécessité d'investir sur le continent. À Nairobi, par exemple, 93% de l'énergie est renouvelable. Elle provient de l'hydroélectricité et de la géothermie. Et très peu d'endroits au monde peuvent se vanter d'en faire autant. L'Afrique deviendra la région la plus peuplée du monde dans les 25 prochaines années. Mais nous ne voyons aucune mesure concrète pour assurer notre sécurité future. C'est donc le plus grand défi financier, et en particulier pour les collectivités locales.
Propos recueillis par Amélie Tulet. C'est une réforme qui tient en quelques mots, mais aux conséquences déjà bien visibles dans plusieurs pays africains, notamment la réforme de l'ONU présentée en mars, baptisée UN Haiti. UN 80 en bon français, coupe budgétaire, réduction des effectifs, relocalisation, moins 20% en moyenne dans les personnels et les budgets sont coupés et d'énormes conséquences forcément pour les populations bénéficiaires. De quoi globalement inquiéter Yann Richards, il est le président du syndicat des personnels de l'ONU à Genève.
Pour nous, le UN 80, donc le processus de restructuration, c'est pas stratégique. La crise dont traverse l'ONU a été causée par des arrières de paiement. En même temps, il y a une certaine manque de pertinence. Par exemple, beaucoup de pays en Afrique cherchent à voir comment l'ONU peut mieux leur soutenir. Donc, le UN 80 devrait commencer par une réflexion stratégique de voir, d'une part, comment est-ce qu'on peut être plus pertinent, comment est-ce qu'on peut soutenir mieux les pays, mais aussi comment est-ce qu'on peut résoudre cette crise de paiement. Mais le UN 80 ne fait ni l'un ni l'autre. Il commence par des coupures directes de 20% partout à l'ONU, surtout sur le terrain, qui va avoir des effets sur le soutien et l'accompagnement qu'on peut rendre à nos pays. Et en même temps, il crée des énormes coûts en termes de délocalisation, en termes de restructuration, sans avoir pensé à quelle est la raison pour tout ça. Et on demande qu'il y ait une réflexion vraiment sur quel est l'avenir de l'ONU. On est à un de ces moments où l'ONU doit trouver un nouveau rôle, et c'est cette discussion qu'on devrait avoir.
Un propos recueilli par Charlotte Cosset qui signe l'Afrique Économie du jour à lire sur notre appli RFI. Une plainte contre Samuel Eto'o au Cameroun, l'ancienne star du foot, président de la fédé locale du ballon rond, accusé d'avoir détourné de l'argent de la fédération, la FECAFOOT. C'est un membre du comité exécutif qui porte plainte à la suite de la diffusion depuis la semaine dernière de documents financiers internes qui révèlent les dessous des montants négociés entre la fédé camerounaise de foot et la fédé russe à l'occasion d'un match amical qui a opposé les deux équipes nationales. C'était il y a deux ans. Les détails dans le prochain journal Afrique dans une heure. Et tout de suite, les sports côté terrain, cette fois, André-Anne Mélard.